Dime que son los secretos de tu
Les racines du ciel. Une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar, réalisée par Clotilde Pivin, préparée par Marie Dalquier, avec à la prise de son Mathieu Leroux. Aujourd'hui, nous recevons Janine Solotareff et Hervé Toulouat pour parler de la symbolique des mythes. Bonjour à tous les deux. Bonjour Lélie.
Bonjour, bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour.
La semaine dernière, nous avons parlé avec Christian Merle et Pierre Canoui de Paul Diehl, en fait, un peu de sa vie, beaucoup de son œuvre, et de l'apport majeur de ce penseur à la psychologie, à travers notamment l'élaboration de la psychologie de la motivation. Cette semaine, nous recevons donc Janine Solotareff et Hervé Toulouat pour nous parler de la manière dont la psychanalyse introspective de Paul Diehl peut être appliquée à l'étude des mythes et symboles et servir de base ainsi dans des thérapies à caractère psycho-spirituel. Janine Solotareff, vous êtes en effet psychanalyste, vous avez eu le privilège de connaître Paul Diehl personnellement puisque vous avez été son élève pendant plus de 20 ans. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur le rêve et le symbolisme, dont certains d'ailleurs en vous êtes co-auteur avec Paul Diehl, donc d'ouvrages qui s'appuient sur la méthode développée par Paul Diehl. Et pour préparer cette émission, nous nous sommes plus particulièrement basés sur psychologie et symbolisme religieux, qui est consacré à la traduction du symbolisme des évangiles et qui est paru aux éditions de L'Élébor en 2008. C'est aussi en vous basant sur la psychologie de la motivation, fondée sur l'introspection méthodique, que vous pratiquez en tant que thérapeute et vous présidez l'association de psychanalyse introspective. Quant à vous, Hervé Toulouat, vous êtes secrétaire général de cette même association de psychanalyse introspective. Alors au départ, rien ne vous destinait à cette fonction puisque vous êtes de formation et de profession ingénieur chimiste et directeur adjoint de la direction scientifique dans un organisme de recherche publique. Mais aujourd'hui, ce n'est pas comme chimiste que nous vous recevons, mais plutôt un peu comme alchimiste, ou en tout cas comme praticien de la méthode introspective de Paul Diehl. Et vous avez été vous-même, vous êtes l'élève de Janine Solotareff. Et vous avez publié en 2012 « Le symbolisme dans la mythologie celte, l'apport de la psychanalyse introspective, traduction selon la méthode de Paul Diehl ». On aura noté la ressemblance de votre titre avec celui de Janine Solotareff. C'est toujours aux éditions Élébor. Dans cet ouvrage, vous appliquez la méthode, la fameuse méthode que Janine Solotareff applique aux mythes, aux évangiles, vous l'appliquez aux mythes celtes. Et vous allez nous expliquer en fait quelle utilité thérapeutique peuvent avoir ces mythes et légendes en fait pour chacun de nous, à partir du moment où on apprend à les interpréter.
Alors avant qu'on parle de la symbolique des mythes, j'aimerais qu'on profite de votre présence, Janine Solotareff. Vous avez côtoyé pendant 20 ans Paul Diehl. Parlez-nous un peu de lui, de sa personnalité, de son caractère. Et quel type d'homme c'était au quotidien?
C'était un homme entier. Et il était surtout centré sur son travail, sur son œuvre. Je me souviens de promenades. J'ai passé beaucoup de vacances avec lui et sa femme. Et je me souviens de promenades où on parlait de choses et d'autres, de la nature. Et puis tout d'un coup, il faisait demi-tour, il disait « il faut que je rentre ». Il avait une idée en tête et il fallait qu'il l'écrive et qu'il la développe. Et donc on restait sans lui et on le retrouvait le soir content d'avoir pu mettre au point une idée ou, qui le préoccupait. En dehors de ça, il était extrêmement... comment dirais-je, vieille France, hein, avec les dames, toujours... et il avait une sorte de rayonnement, il pouvait se fâchait et il n'était pas facile de caractère, sa femme non plus du reste, et ils avaient des petites altercations, enfin c'est un grand mot, ils n'étaient pas toujours d'accord, mais 3 minutes après le moment où il s'était un petit peu échauffé, il redevenait souriant et la bonté manifeste. Il avait gardé ce tempérament de nerveux dont il a très bien expliqué les fondements, et j'appartiens à cette classe de gens ainsi qu'Hervé.
Oui.
Mais en même temps, sa méthode permettait et m'a permis de me calmer par rapport aux angoisses, par rapport aux souffrances que ce caractère de nerveux, disons, à la limite de la névrose, pouvait susciter.
Alors nous avons vu que c'était un homme qui avait eu une vie difficile, il a été élevé dans un orphelinat jusqu'à l'âge de 13 ans.
Il a perdu sa mère,
à 14 ans, alors oui. Qu'il venait de la retrouver, enfin donc c'est une vie très difficile, il a connu la guerre, il a dû fuir, enfin c'est une vie très difficile. Est-ce qu'à la fin de sa vie c'était un homme qui restait tourmenté ou qui était apaisé et serein? Comment vous le qualifieriez sur cet angle-là?
Les deux. Il était apaisé et serein, certainement, par rapport au sentiment intérieur d'acceptation qu'il avait de sa vie passée, de ses difficultés. Mais en même temps, il était toujours sur la brèche, on a envie de dire, toujours à chercher, à comprendre, à approfondir, guidé par son œuvre.
Oui, il était habité par cette vocation.
Absolument, habité par son œuvre qu'il a poursuivi jusqu'à la fin de sa vie.
Quel est l'ouvrage qu'il considérait, dont il était le plus fier, qu'il considérait comme le plus important? Est-ce qu'il avait une...
Peut-être le premier, la psychologie de la motivation, parce qu'elle établit sa théorie, si je peux dire, sa méthode. Et tous les autres ouvrages sont des... L'ouvrage de la divinité est aussi, puisque c'était axé sur le problème religieux, est aussi fondamental. Et quand on me demande quel livre lire de Diehl, la psychologie de la motivation... La divinité et peur et angoisse. Ces trois-là, je pense que...
Ce sont les plus difficiles, mais...
Hervé est d'accord avec moi. Ils sont difficiles, oui. Mais en même temps, je me souviens, on a le sentiment quelquefois de lire un paragraphe entier sans avoir compris. Puis la phrase après, ah, ça y est, on comprend et tout s'éclaire. Mais c'est une œuvre qu'il faut lire et relire. On ne peut pas tout comprendre. Il y a un vocabulaire particulier nécessaire pour parler de choses précises. Et il faut se familiariser avec... Mais en même temps, c'est un vocabulaire extrêmement parlant quand on le comprend.
Et alors Hervé Touloat, vous n'avez pas connu directement Paul Diehl. J'aimerais savoir comment, en tant que vous étiez donc scientifique, ingénieur chimiste, qu'est-ce qui vous a bouleversé à ce point et quel était le déclic qui vous a amené à vous convertir à...
J'aime cette question. Quel a été mon chemin de Damas?
Voilà.
Et bien donc, je peux dire que je suis tombé dedans étant relativement petit, puisque j'avais 22 ans. Et j'étais donc juste à la fin de mes études de chimie. Je suis issu d'un milieu qui n'est pas ni la science, ni la psychologie, mais un milieu artistique en Bretagne. Donc je pense que je dois à cela une certaine différenciation. Et donc c'était une époque, ce que Diehl appelle l'époque de l'adolescence, où j'étais quand même à la fois un nerveux et puis un adolescent en quête du sens de la vie. Et donc je me rappelle que je faisais de la chimie dans la journée et le soir j'allais dessiner. J'ai dessiné à Montparnasse, l'école municipale. Je ne vais pas trop prendre de temps, je vais essayer d'être assez bref. Et puis, cette année-là, était sorti le symbolisme dans la Bible. C'était en 1976, donc. Et j'avais dû voir passer un article dans Le Monde, que je lisais de temps en temps, sur le symbolisme dans la Bible. Et puis, ça s'était recouvert. Et un soir, en sortant du dessin, mes camarades voulaient aller au restaurant, au cinéma. Moi, je devais refaire de la chimie le lendemain. Je n'avais pas le temps. Par contre, il y avait une librairie ouverte. Je suis allé voir. Et il y avait là, en vitrine, les œuvres de Diehl. Donc, j'ai été sensibilisé. Je suis rentré. J'ai pris, je me rappelle, Psychologie de la motivation, l'introduction. J'ai eu la première phrase. C'était un choc. J'ai pris la mythologie grecque, c'était encore un choc. Je suis sorti de la boutique avec toute l'œuvre de Diehl dans deux sacs en plastique. Et je les ai lus en trois mois. Donc, je n'ai pas compris grand-chose, bien sûr. Et
très vite, ça vous a parlé.
Très vite, j'ai donc eu le besoin d'entrer en contact avec les élèves de Diehl. J'ai trouvé encore son numéro dans l'annuaire, dans les pages blanches. J'ai eu Madame Diehl au téléphone. C'était une grande émotion. Elle m'a reçu. Et ensuite, elle m'a mis en contact avec ses élèves. Et j'ai donc rencontré Janine au cours d'une conférence au mois de juin. Et cette histoire dure depuis. Voilà. Donc, alors, j'ai mené ça en parallèle.
Tout à fait. Alors, maintenant, venons-en à votre livre, donc le symbolisme dans la mythologie celte. J'imagine que vos racines bretonnes, effectivement, oui, vous ont inspiré pour vous intéresser à la mythologie celte. Mais donc, c'est en appliquant la méthode de Paul Diehl que vous avez essayé de comprendre la mythologie celte. Alors, expliquez-nous.
Oui. Voilà. Donc, effectivement, pendant toutes ces années, donc je suis devenu un élève assidu et je me suis formé. D'abord, j'ai utilisé bien sûr la psychologie, j'utilise toujours pour moi-même, parce que, comme l'a dit Janine, nous sommes des nerveux. Nous avons besoin de cet acquis toute notre vie.
Alors, peut-être juste par parenthèse, expliquez à nos auditeurs ce que vous entendez par « nous sommes des nerveux ».
Le nerveux a toujours un côté banalisé, et le banalisé peut avoir aussi un côté un peu nerveux, c'est-à-dire cette double exaltation finalement. Exaltation vers l'esprit, typique du nerveux, exaltation vers la terre, vers les désirs terrestres, vers les plaisirs et les jouissances, typique du banalisé. Mais on n'est jamais complètement nerveux ou complètement banalisé. Il y a quand même un mélange des deux, avec dominante de l'un ou de l'autre.
Mais revenons à la symbolique celte.
Pourquoi la symbolique celte? Donc, effectivement, déjà, une certaine affiliation. L'Irlande, cet endroit où j'ai séjourné quelquefois, que j'aime bien. Et puis, donc, il y avait la curiosité, avant tout, puisque, on peut dire, possédant cette méthode de traduction, surtout pour la traduction des rêves nocturnes, hein, et que nous utilisons quotidien, en fait, aussi pour la thérapie diehlienne, eh bien, j'avais trouvé intéressant de regarder ce qu'on pouvait tirer de ces mythologies peu connues en France. Alors, en particulier, donc, au cours d'un séjour en Irlande, d'ailleurs, le même été, on avait séjourné en Grèce et en Irlande avec ma femme, et donc, on avait pu déjà faire un lien, si vous voulez. Et donc, j'avais trouvé à Killarney, je crois, c'est un livre assez épais, qui est donc la mythologie irlandaise complète de Lady Gregory. Et Lady Gregory était une femme de lettres irlandaise qui est née en 1852, je crois, elle est morte en 1932. Elle est connue pour être aussi dramaturge, elle a fondé le Abbey Theatre à Dublin. Et donc, ce livre est préfacé par Yeats, qui était un de ses amis. En fait, Lady Gregory était donc une aristocrate qui était née en Irlande et qui avait été élevée par une nourrice gaélique. Et donc, elle avait eu presque au berceau le gaélique, ça se passait dans le Connemara, et les légendes. Ce qui fait que, apprenant ça, je me suis dit, cette compilation qu'elle a faite, d'ailleurs, ça date de 100 ans, hein, et mérite d'être examiné. Donc, effectivement, je suis rentré en France avec ce livre, épais, pas très cher d'ailleurs. Il n'en existe pas d'équivalent en France. Et donc, il est resté sur mon étagère pendant quelques années avant que j'entreprenne la traduction. Et donc, c'était un gros travail, ça m'a pris quelques années, mais je l'ai fait par curiosité, par plaisir, en fait. Voilà.
Oui, mais ma question, plus précisément, le lien avec Paul Diehl.
C'est parce que la méthode, c'est strictement la méthode de Paul Diehl. Je rappelle qu'un des grands livres de Paul Diehl, c'est Le symbolisme dans la mythologie grecque, qui est aussi un des livres qui m'ont énormément ému, disons, dans ma vie. Et donc en fait, cette méthode-là, je l'explique d'ailleurs dans mon livre, enfin, on la retrouve dans le livre de Janine sur les rêves, et c'est la même méthode. Diehl nous explique que, en fait, nous, Nous avons donc c'est le langage de l'extraconscient, ce langage symbolique qui est une forme de langue archaïque qui s'exprime par image, parce que nous avons donc le monde extérieur qui nous entoure, et nous, comme disait Diel, je crois, nous avons en nous le monde intérieur qui est le reflet du monde extérieur. Nous portons le monde entier en nous sous forme d'images, et donc ce sont ces images qui sont je dirais que ça s'est probablement mis en place avant l'apparition du conscient. Donc, ce sont ces images qui sont finalement ce grand poète en nous qui est le surconscient, qui élabore ces récits, ces suites d'images, soit dans nos rêves nocturnes, ou alors dans ces mythes fondateurs des cultures, parce que ça correspond à notre besoin d'orientation essentielle.
Et ce qui est passionnant, c'est de voir que les symboles traduits à travers les mythes sont les mêmes symboles que nous employons dans nos rêves,
oui,
sans en connaître la signification. Et c'est la même méthode qui a permis de traduire les mythes, qui permet de traduire les rêves nocturnes, et qui montre bien, puisque avec cette méthode, on arrive à une cohésion et à une explication profonde de ce que peut être un rêve, montre bien que la méthode est juste.
Donc tous les mythes sont une projection de la psyché, oui, et de tous nos conflits intérieurs, de toute notre quête, les difficultés que nous avons pour la réaliser.
Et oui, et une tentative de donner une solution à ces problèmes. Déguisé avec un langage symbolique que l'on ne comprend pas toujours, mais qui nous a certainement touchés.
Alors Freud a déjà bien expliqué ça, parce qu'il a utilisé un certain nombre de mythes grecs, tels Oedipe évidemment, pour montrer que c'était des expressions des conflits de la psyché. En quoi Paul Diel diffère dans son interprétation de la symbolique ?
Quand même, Freud est axé avant tout sur une explication à partir de la sexualité, alors que Diel montre explique tout à partir de la spiritualité. Parce que finalement, que ce soit sexualité ou matérialité, c'est toujours vécu à travers notre esprit, à travers notre valorisation. Nous ne vivons pas la sexualité comme l'animal. Nous le vivons à travers des sentiments, à travers une valorisation. C'est bien, c'est mal, ça me fait plaisir, ça m'angoisse. Donc, finalement, l'intérêt pour la spiritualité, pas dans le sens religieux du terme,
de
l'esprit, est fondamental pour comprendre vraiment et la matérialité, et la sexualité, et l'esprit lui-même.
Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel en compagnie de Janine Solotareff et de Hervé Touholat. Nous parlons de la symbolique à travers la mythologie et notamment l'œuvre de Paul Diel. Alors Hervé Touholat, concrètement dans la mythologie celte, comment est-ce que le travail de Paul Diel va l'éclairer ?
Alors, donc déjà, on parlait de l'approche de Freud. Diel nous a apporté à la fois une véritable grammaire et un vocabulaire du langage symbolique. Donc on apprend, se trouvant dans un texte, à presque phrase par phrase et mot par mot, à le transposer. Donc on le transpose sur le... Alors il y a trois plans. Le plan de la réalité, on commence par scruter l'image, mais qu'est-ce qu'elle nous dit, qu'est-ce qu'elle nous dit sur le plan de la réalité ? et comment cela peut se transposer sur le plan symbolique. Et puis il y a aussi le plan linguistique, qui dans le mythe va apparaître beaucoup à travers les noms de lieux et noms de personnes, et qui tous apportent des éléments sur la dynamique en fait de cette délibération, que ce soit celle du mythe, qui nous raconte une histoire avec un sens essentiel, une dimension essentielle, ou le rêve. Et donc, ce que j'ai trouvé, alors j'étais obligé déjà de, ne connaissant pas a priori la mythologie, j'explique dans mon livre comment cette mythologie celte nous est parvenue jusqu'à nous. Les Celtes, c'était nos ancêtres les Gaulois, mais c'est les Gaëls, c'est les Galates, etc., n'avaient pas d'écriture, donc c'était essentiellement une transmission orale. Ça nous est, ce sont les moines irlandais qui, vers le 10e, 11e siècle, ont transcrit en gaélique ces récits, et c'est de ça qu'est parti Lady Gregory. Donc, à partir de ces textes, il fallait déjà les traduire, enfin peu importe, de l'anglais vers le français, ça c'était pas le problème, et ensuite les scruter, les comprendre, et peu à peu est apparue toute une cohérence. Donc à travers ce que j'ai sélectionné, un peu moins de 10% de la mythologie de Lady Gregory, j'ai sélectionné des textes qui correspondent à peu près à la théogonie vue par ces polythéistes qui étaient les anciens Celtes, avec donc une forme de, c'était à la fois presque contemporain et aussi de racines indo-européennes comme l'étaient les Mycéniens, les Grecs. Donc une espèce de, donc c'est l'arrivée des dieux, et ensuite c'est le combat contre les Firbolg et les Fomorais, qui sont des géants, qui en fait symbolisent un petit peu comme le combat des dieux, enfin de Zeus et ses frères, et des géants qui symbolisent aussi qui symbolisent la banalisation, mais qui symbolisent aussi pour les Firbolg un changement d'époque culturelle, oui. En fait. Donc on en trouve la trace dans les mythes. Et puis ensuite, quelque chose qui est assez central, c'est l'histoire de Lugh, le lumineux, dont le nom reste à travers Lugdunum, par exemple, à la ville de Lyon, Loudun. Enfin, il y a beaucoup d'endroits dans la toponymie qui témoignent de ce héros fondamental, qui donc est, dans la mythologie irlandaise, le héros vainqueur qui va vaincre Balor, qui est le roi des géants, des Fomorais, lui, est caractérisé par cet œil unique. Alors c'est en fait cette image que Tolkien a reprise dans Le Seigneur des Anneaux. Tolkien, qui était un universitaire très érudit, connaissait bien la mythologie, manifestement, des îles britanniques. Et donc il vint Balor, et à ce titre, il est un analogue de Persée, qui dans la mythologie grecque
est le héros vainqueur,
qui va vaincre Méduse, et aussi finalement de Jésus, qui en fait est le héros vainqueur, puisqu'il a vaincu le prince du monde, c'est-à-dire au fond le mal en nous, Satan. Oui. Voilà.
Mais c'est pour ça qu'il porte un nom qui veut dire la lumière.
Qui veut dire la lumière, et il est aussi Luglam Falla. Alors je ne garantis pas la prononciation, parce que mes compétences linguistiques ne s'étendent pas au gaélique, et donc c'est-à-dire le long bras. Et c'est effectivement avec ce long bras qu'il va lancer le javelot de la vérité qui vient à bout de Balor.
Alors sur cet exemple, par exemple, de Lugh, ou de ce héros vainqueur, dites-nous en quoi justement l'interprétation de Diel est particulièrement éclairante. Qu'est-ce qu'elle apporte de plus au récit tel qu'on le connaît? Comment elle l'interprète?
Ah, donc vous sortez de la façade du mythe, en fait, c'est-à-dire de ces récits guerriers, plein d'illogismes énigmatiques. Vous avez des monstres, de la magie, des baguettes de druides, des hommes qui se transforment en animaux. Vous sortez de cette façade illogique et fantasmagorique, si vous voulez, mais aussi très poétique, pour transposer ça en termes de conflit intérieur, précisément, de conflit intérieur universel. C'est donc la préscience, en fait, de ce qu'est ce conflit en chaque être humain. Et ceci depuis la nuit des temps.
Donc Lugh est en nous.
Lugh est en nous et Balor aussi.
Et Balor aussi, c'est ça. C'est ça le malheur.
Voilà. Mais donc, évidemment...
le malheur et l'intérêt.
Bien sûr.
Bien sûr, ça donne aussi
son sel à la vie,
de pouvoir, au fond, relever ce défi, ce combat essentiel, qui est celui de tous les héros dans les mythes, donc notamment les mythes polythéistes, hein, puisque Diel distingue en fait aussi les stades évolutifs de la culture entre l'animisme des chasseurs-cueilleurs ou des primitifs jusqu'au polythéisme des agriculteurs et éleveurs, avec déjà deux stades, le stade pastoral et le stade agricole, des stades où le risque de l'exaltation des désirs matériels devient de plus en plus grand, et puis ensuite le stade monothéiste qui est parvenu jusqu'à nous. Mais évidemment, toutes ces époques aussi se dogmatisent parce que la compréhension intuitive des mythes se perd, et la dogmatisation est une sorte de nécessité sociale pour éviter, pour maintenir en fait la civilisation cohérente. Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes à l'époque scientifique.
C'est-à-dire ?
Eh bien, c'est-à-dire que c'est aussi une époque de grande désorientation des individus. Les conquêtes techniques de la science du monde extérieur, de la physique, ont créé les conditions à la fois d'une matérialité, d'une sorte de domination matérielle du monde, et en même temps beaucoup de problèmes de conflits. Et donc, je termine là-dessus, l'époque scientifique, son défi, le défi qu'elle a relevé, c'est justement de créer cette science du monde intérieur qui est le pendant de la physique et qui est finalement, qui nous a été apportée, nous, enfin, c'est notre conviction par Diel.
Il est en général difficile de faire comprendre que la psychologie peut être une science. Pour beaucoup de personnes, c'est des intuitions, c'est des explications, alors que Diel a mis au point vraiment une science avec des lois, et des lois que l'on peut utiliser pour justement s'introspecter, pour ne pas tomber dans l'introspection morbide qui est plutôt connue, et être guidé dans la recherche des motifs qui sont en nous et qui nous font agir plus ou moins en accord avec notre élan profond ou soumis à la vanité.
Dans le symbolisme, dans l'évangile de Jean, Paul Diel justement évoque ces difficultés. Alors c'est intéressant parce qu'il est mort en 1972, donc oui. Il y a très longtemps déjà qu'il pressent venir ce dont vous parlez, c'est-à-dire cette dogmatisation par la science et cette difficulté finalement
Les dogmatisations par la religion.
Par la religion, aussi. Voilà, absolument. Par la religion, en 72, c'était évident. Tout le monde le savait. Mais la dogmatisation par la science, c'était peut-être moins évident. En tout cas, là, justement, il pose les problèmes du conflit, précisément, des divers dogmatismes desquels il faut sortir pour se réaliser, pour réaliser en réalité le sens de sa propre vie. Et voici donc ce qu'il dit dans... C'est un livre qu'il a écrit d'ailleurs avec vous, hein, Jeannine Solotareff-Posette. On peut se demander, au seuil du troisième millénaire, où le monde est menacé de destruction, s'il est juste d'avoir encore foi dans le sens de la vie, si l'humanité est indigne de vivre, si elle refuse la vérité sur la vie et son sens, elle ira vers la mort. Ce ne sera que la manifestation de l'immanence de la justice. C'est encore une façon, si tragique soit-elle, de rendre témoignage à l'esprit de vérité. Mais ce n'est pas au terme de la lecture de l'Évangile qu'il convient de désespérer de l'humanité. Menacée, elle l'est. Mais devant le danger évident, ne sera-t-elle pas capable de s'élever au niveau exigé par les données actuelles de la réalité ? Ce qui est certitude, quel que soit le sort que connaîtra l'humanité, c'est que seul l'esprit de vérité est source de satisfaction, de joie et de vie. La nouvelle étape évolutive, la capacité de percevoir lucidement les motifs de ses actes sans les falsifier par angoisse vaniteuse, sans les projeter sur le monde en accusation sentimentale, devient actuellement pour l'homme une nécessité de la recherche de satisfaction. À l'époque scientifique où nous vivons, la science du monde intérieur, seule capable d'endiguer la mauvaise utilisation de la science du monde extérieur, doit pouvoir apporter une méthode de pensée capable d'assainir le psychisme, surtendu par l'exaltation des désirs, nourri par la technicité moderne, déviée de son but. La réponse de l'homme au mystère de la création sera le travail non seulement surconscient, mais conscient, de spiritualisation et sublimation, authentique création de soi-même, appelée par le mythe chrétien la résurrection.
Alors, justement, je voulais vous demander, Jeannine Solotareff, de nous parler de ce mythe chrétien fondamental, celui de la mort et de la résurrection du Christ. D'une part, nous en donner l'explication symbolique, au-delà de ce qui peut être une réalité pour les croyants, mais quelle est l'explication symbolique profonde? Et est-ce que ce mythe s'enracine dans d'autres mythes plus anciens de l'humanité? Osiris, par exemple.
Oui, c'est vrai. Osiris qui... Oui,
qui meurt et renaît.
Qui meurt et renaît, grâce à ça. Oui. Isis qui le cherche jusqu'à temps qu'elle le trouve. Et d'où résulte Horus, hein, qui est une image certainement très analogique au Christ. Oui, vous avez raison. Ben, ça a toujours été, c'est ce, que ce dont l'esprit humain a besoin, de s'expliquer le sens de la vie. Et donc, sous différentes formes mythiques, c'est toujours la même solution qui est proposée. Renaît de la mort de l'âme. La résurrection, c'est ça. C'est la résurrection, ce qui veut dire se redresser dans l'origine du terme.
Oui, il faudrait dire que le Christ s'est redressé, relevé d'entre les morts.
Il s'est relevé d'entre les morts qui symbolisent, eux, les morts par la banalisation, pas des morts réelles, des morts de l'âme. Et c'est de cette mort-là que le Christ, la vérité que cet homme Jésus a vécu, permet de ressusciter, en somme, de retrouver l'élan de la vie, de quitter finalement la tentation continuelle des satisfactions uniquement terrestres, matérielles et sexuelles, et donc de développer l'élan vers la vérité, l'élan vers ce que Dieu appelle la spiritualisation et la sublimation. La spiritualisation qui est la compréhension et la sublimation qui est l'acte par lequel on se libère, on se dissout l'erreur.
Et oui, en même temps, vous dites bien que ce n'est pas tendu vers une vie après la mort.
Ah non,
vous expliquez bien que c'est
pas.
D'un côté, évidemment, de dépasser les désirs les plus banals de l'existence, mais c'est pas non plus quelque chose qui est tendu vers une récompense éventuellement après. Non, c'est vraiment pour ici et maintenant.
C'est pour trouver la récompense ici et maintenant, qui est la récompense d'être en accord avec soi-même, d'être en harmonie. C'est pas du tout dans un but futur, c'est dans l'immédiat. On ne ressuscite pas une fois pour toutes. Notre vie est une suite de chutes
et de
résurrection. Oui. À moins d'être un être extraordinaire, nous sommes tous en continuelle chute et résurrection, mais enfin en montant quand même. Si véritablement on ressuscite un certain nombre de fois dans le sens modeste de se libérer d'une obsession, par exemple, ou de rancœur qui lui écrase, qui nous enlève la joie de vivre, eh bien petit à petit, on acquiert quand même un autre goût pour la vie, un goût de cette harmonie intérieure qui nous permet de goûter la vie pleinement.
Je me permets quand même d'insister sur un point, c'est autant cette interprétation symbolique me paraît très intéressante et sûrement très juste, autant je tiens à rappeler que ce n'est pas la foi des chrétiens. La foi des chrétiens, c'est par sa mort, il a vaincu la mort. C'est-à-dire qu'il y a quand même une idée fondamentale dans la résurrection, et c'est pour ça que Paul dit « sans la résurrection du Christ, notre foi serait vaine », c'est que le Christ est encore vivant après sa mort.
Oui,
c'est-à-dire que son esprit continue d'exister, il n'est pas mort dans son esprit, son corps est mort, mais pas son esprit.
Et donc c'est
une victoire sur la mort, et par rapport à l'angoisse de mort dont nous parle Paul Diel, qui est très importante, un des fondements de l'existence humaine, la foi chrétienne a aussi cette dimension dans la réalité de dépasser la peur de la mort.
Oui, mais il ne faut pas confondre Jésus et le Christ. Jésus, c'est l'homme, et le Christ, c'est l'enseignement qu'il a apporté. Donc cet enseignement permet de ressusciter, effectivement, de renaître, tout simplement. Peut-être le mot renaître est moins dangereux que ressusciter. Et renaître, on meurt et on renaît au cours de sa vie, continuellement, on peut dire.
Oui, mais c'est pas. J'entends ce que veut dire Frédéric. Ça veut dire que c'est pas. Cette lecture est très valable, mais ça ne veut pas dire que les autres lectures, y compris une lecture plus littérale, soient fausses pour autant. Les deux peuvent être vraies parallèlement.
Oui.
C'est vrai que c'est un tout petit peu le reproche qu'on pourrait faire à cette méthode qui a un côté un peu systématique. qui est vraiment passionnante. Hein. C'est sûr qu'on ne relit pas les mythes et les évangiles de la même façon. Mais néanmoins, c'est vrai que si on prend le côté trop systématique, on a l'impression que voilà ce que signifie le texte et puis pas autre chose. Alors qu'en réalité, un texte sacré ou un mythe, ce qui fait sa caractéristique, c'est d'être sujet à des lectures multiples, voire infinies.
J'avais tout au latin.
Moi, ce que je voulais dire depuis tout à l'heure, c'est que je me suis peut-être mal fait comprendre dans la notion de dogmatisation nécessaire. C'est une nécessité extérieure. Par exemple, à l'époque de la chute de l'Empire romain, vous aviez une division du christianisme en de multiples sectes, les Ariens, les Amniens, etc., etc., qui d'ailleurs se tapaient dessus. Et donc, l'unification par des conciles manu militari était une nécessité historique. Et donc, en ce qui concerne la science véritable, c'est antinomique du dogme. La physique n'est pas dogmatique. Elle évolue, elle est une théorie de la réalité qui, c'est une vue de l'esprit aussi, bien entendu, et qui donc se vérifie par la correspondance avec la réalité. Et donc nous pensons que la psychologie de la motivation, c'est effectivement la science réelle de notre monde intérieur.
Et qui se développera oui. à l'infini. Autant
c'est vraiment
que
une nouvelle étape.
Sera. Ouais. C'est une méthode de pensée qui permet de développer sa pensée dans X années, les conditions de la vie extérieure seront différentes et donc les propositions du monde intérieur seront différentes, mais la méthode par laquelle on essaye de mettre le doigt sur ce que Diel a appelé la vanité, c'est-à-dire la tentation de croire qu'on a toujours raison et qu'on est mieux que les autres, restera le problème fondamental.
Et est-ce que vous utilisez ces mythes et ces paraboles aussi dans votre pratique thérapeutique ?
Ça dépend des personnes. Il y a des personnes pour lesquelles ça ne signifie rien. Il y en a d'autres pour lesquelles ce parallélisme entre notre monde intérieur et ce que expliquent les mythes est extrêmement émouvant et renforce finalement la foi, j'ai envie de dire, et non pas la croyance, la foi dans cette science.
Alors je voulais revenir aux évangiles. Je crois que vous donnez une interprétation symbolique de quasiment tous les miracles du Christ, par exemple.
Oui.
Alors donnez-nous quelques exemples.
La multiplication des pains, par exemple. Le pain étant symbole de la vérité, il est certain qu'une vérité formulée ouvre sur d'autres vérités. C'est la progression de la vérité de point en point. Ça, c'est la multiplication des pains qui n'est jamais terminée.
Et comment vous assimilez le pain à la vérité ?
Oh, c'est quand même dit dans l'Évangile, plus ou moins. Parce que le pain est la nourriture fondamentale du corps. Et donc, le symbolisme, c'est une analogie. C'est une transposition des éléments du monde extérieur dans le monde intérieur.
De même que le pain nourrit le corps, on pourrait dire l'esprit nourri par la vérité.
Voilà,
la vérité nourrit l'esprit.
L'esprit, exactement.
Et les noces de Cana, je suis sûr que vous avez une interprétation symbolique du changement de l'eau en vin.
Oui, bien sûr. C'est la parole du Christ qui est une parole véridique qui change l'eau. Là, dans ce sens, l'eau est sans goût et platitude, dans le vin, symbole de la nourriture de l'âme. Hein, la vigne, travailler dans les vignes du Seigneur, c'est le vin est le symbole
de l'enthousiasme.
Hein,
le vin de l'enthousiasme.
Le vin de l'enthousiasme, de la vérité. Et c'est ça, travailler dans les vignes du Seigneur. Et plus on y travaille et plus on a y a... On a à y travailler.
Et en fait, vous dites quand même quelque chose d'assez intéressant, parce que souvent vous dites, bon, finalement, tout ça, ce sont des paraboles qui mettent en jeu les différentes instances de notre propre psyché, Jésus lui-même étant un symbole de la puissance du désir essentiel en chacun de nous, mais aussi vous dites par ailleurs que la puissance de Jésus guérit en fait en un instant ce qu'il faut parfois des années à guérir. Est-ce que...
Plutôt le Christ alors à ce moment-là.
Vous dites Jésus, hein, page 37.
Oui.
Mais enfin, qu'importe. Qu'importe. Ce que je veux dire, c'est que vous pensez que la parole donnée, si c'est un être qui a une particulière puissance pour le dire ou pour finalement dire ce qu'il a lui-même expérimenté d'une certaine façon, est-ce que la parole peut guérir, peut faire se passer des années de travail?
Certainement, ça dépend qui donne la parole et quel est celui qui la reçoit. Mais d'emblée, c'est vrai quand même, peut-être tu l'as senti aussi, la première séance que j'ai pu avoir avec Diel, je suis sortie avec le sentiment, j'ai compris. J'ai compris quelque chose de fondamental. Tout d'un coup, se rendre compte qu'on est en même temps producteur de nos souffrances, pas de toutes les souffrances, mais de nos souffrances intérieures, et qu'on peut les changer, c'est quand même une lumière merveilleuse qui vous rentre dans l'âme.
Alors justement, Hervé Touloat, est-ce que vous pouvez donner un exemple ou deux d'aspects de la mythologie celte qui vous apparaissent être extrêmement éclairants pour comprendre nos conflits intérieurs?
Évidemment, c'est l'embarras du choix. Donc, j'ai parlé du combat de Luc contre Balor. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans tous les mythes polythéistes. C'est cette notion de héros combattant des dragons et des monstres. Mais plus spécifiquement, on a peut-être, je n'en ai pas parlé jusqu'à présent, l'épopée des fils de Turéan. Turéan, qui est en fait, dont le nom veut dire le grain. Donc, ce sont les conséquences, en fait, de l'accès à l'agriculture. Et les fils de Tuiréan sont, en fait, c'est l'intellect révolté. Et ils vont aller vers la banalisation. Et ils tuent le père de Lug, Sian, dont le nom veut dire la lucidité, en fait. Donc, ils le tuent. Il y a une inimitié de départ entre les deux familles. Il le rencontre alors que Sian s'est plus ou moins égaré et il le pourchasse et le tue. Et c'est là que se situe un épisode dans lequel on voit... Alors c'est assez complexe en fait, il faut toute la subtilité de la méthode pour retrouver dans toutes ces images, en fait, la délibération, ce que veut dire le mythe, c'est-à-dire toute cette délibération au fond de l'être humain entre sa tendance nerveuse et sa tendance banale. Donc ça, c'est vraiment dans cette histoire, ce début de l'histoire des fils de Tuiréan. Alors, donc, il tue le père de Lug, Lug s'en aperçoit, et puis finalement exige d'eux une réparation sous la forme de 8 travaux extrêmement difficiles à accomplir, qui vont être l'analogue des travaux
comme
d'Hercule ou des histoires de Jason. Mais là, ce sont des héros négatifs, si vous voulez, ce que Diel appelle des héros vaincus. Et donc, on va voir qu'ils vont aussi aller chercher 3 pommes d'or au jardin des désespérés. Donc, on retrouve une convergence avec la mythologie grecque. Est-ce que ces éléments, est-ce qu'il y a eu une sorte de contamination historique, ou est-ce que c'est le fond indo-européen, ou est-ce que tout simplement l'esprit analogique dans des peuples relativement éloignés dans le temps et l'espace retrouve les mêmes images?
Sûrement.
Dans le cas des pommes d'or, qui symbolisent en fait les 3 pommes d'or, c'est la sublimation et la spiritualisation. Ils vont, c'est un des travaux auxquels ils s'en connaissent, ils vont chercher, mais ils vont faire tous ces travaux avec la ruse et la violence. Ce qui fait qu'en fait, c'est comme si c'était
trichait.
Un simulacre, c'est des tricheurs dans le combat essentiel. Et ça se termine mal par leur mort de l'âme définitive. Voilà. Donc le mythe avertit quand même, finalement, la vie, elle est magnifique, et en même temps, elle est sans concession, pour ainsi dire. Il y a ce qu'on peut appeler la justice immanente, qui finalement récompense l'homme,
ou le châtie,
dans la mesure où il écoute l'appel de son élan, ou il le refoule. Thank you.
Cette émission touche à sa fin et nous allons la clore avec la chronique mensuelle de Marie Dalquier. Bonjour Marie.
Bonjour. Alors comme nous sommes à la dernière émission et que nous allons commencer la saison d'été et que pendant 2 mois nous n'aurons que des rediffusions, j'ai pensé justement proposer quelques livres pour l'été pour que les gens puissent continuer à s'inspirer spirituellement. Alors un premier livre de Raphaël Imbert qui s'appelle « Jazz suprême, initié, mystique et prophète ». C'est un livre qui a été écrit par un saxophoniste que nous avions reçu et il n'avait pas eu de chance puisque son éditeur avait déposé bilan à cette époque. Vous pourrez réécouter l'émission, c'était le 3 mars 2013. Et son livre vient enfin de sortir chez Philosophie Imaginaire, édition de l'Éclat. Alors c'est très intéressant parce que c'est un chercheur non-croyant qui pendant 8 ans a travaillé. Alors c'est un livre qui n'est pas historique, c'est vraiment un point de vue de l'artiste. Il a d'abord commencé à expliquer le spirituel dans la musique, l'état d'esprit du jazz. Ensuite il répond à une question qu'on se pose souvent, est-ce que le jazz c'est une musique pour initiés? Et il y répond, je trouve, par une recherche très intéressante puisqu'il explique que l'engagement des jazzmen au sein de la franc-maçonnerie noire américaine, c'est exactement finalement peut-être ce qui répond à ce sentiment d'initiation dans le jazz puisqu'en fait la franc-maçonnerie noire américaine fonctionne totalement à l'inverse de la maçonnerie européenne puisqu'au contraire, elle a pignon sur rue et affiche ouvertement ses symboles, comme par exemple celui du jazz. Alors ensuite, il fait une grande partie sur John Coltrane. Et là, il explique toute la foi et le mysticisme dans ses textes et surtout tout autour de l'album, puisque pour lui, Love Supreme incarne totalement la spiritualité du jazz. Donc je vous recommande ce livre de Raphaël Imbert qui s'appelle Jazz Suprême, initié, mystique et prophète, philosophie imaginaire, édition de l'Éclat. Et puis un petit livre à emporter, alors pourquoi pas en randonnée, pourquoi pas à lire après les pique-niques. C'est un livre de contes des sages cuisiniers, il est écrit par Pascal Folliot que nous avions reçu. C'est un conteur qui avait déjà fait un livre dans cette collection au Seuil. Et il écrit avec Patrick Fishman qui est un conteur musicien et ce sont des contes autour de la cuisine. Alors c'est savoureux, c'est des contes revisités, créés pour ce livre. On va des table princière au camp nomade, on passe par les villages, au monastère zen, on croise des chefs cuisiniers, poètes, des esprits gourmands, des rôtisseurs. Tous ces contes sont magnifiquement illustrés par une iconographie qui va des peintures japonaises à Chagall. Et ces contes autour de la cuisine sont des petites leçons de vie à déguster. On a par exemple le grain de sel ou la plainte du cochon ou la leçon du cuisinier zen. Je vous en lis un tout petit extrait pour comprendre l'âme de ce livre. Quand vous lavez le riz ou les légumes, faites de vos propres mains, dans l'intimité de votre propre regard, avec diligence et conscience, sans que votre attention se relâche un seul instant. Alors, ce petit livre orange s'appelle « Contes des sages cuisiniers au seuil ». Et puis, un livre pour les décideurs, ces cadres dynamiques, ces hommes de pouvoir qui ne prennent souvent pas de vacances ou qui n'en prennent que l'été. Voilà, c'est un livre pour vous, ça s'appelle « Ces décideurs qui méditent et s'engagent, un pont entre sagesse et business ». C'est avec la préface de Mathieu Ricard. Alors un tel livre aurait été totalement impensable il y a quelques années, puisqu'à cette époque-là, la méditation était plutôt considérée comme une perte de temps dans l'entreprise. Et bien pourtant, si on prend l'exemple du dernier Forum économique mondial de San Francisco, à l'occasion de ce forum, a été organisée une conférence qui s'appelait « La sagesse à l'ère digitale ». Et pendant cette conférence, on avait la plupart des grands dirigeants de la high-tech et de l'Internet, on avait Google, eBay, Facebook, ils sont tous venus partager leur expérience et la manière dont ils introduisent la sagesse dans leurs affaires. Alors cette conférence est passée il y a 4 ans d'une centaine de personnes, à l'année dernière à 2000 participants. Alors, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il aide les décideurs à redéfinir leur rôle et la place qu'ils laissent à leur ego. C'est souvent le problème qui se pose à cet endroit-là. Et c'est un livre qui, justement, grâce à la méditation, les appelle à s'engager vers des business plus justes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la méditation ne les emmène pas à se retirer du monde, mais au contraire à mettre leurs compétences au service du monde. C'est un livre qui a été écrit par Sébastien Henry, un entrepreneur qui vient de passer 10 ans en Asie, et il a basé tout ce livre sur une 60aine d'entretiens avec des entrepreneurs dans le monde. Alors, je vous donne juste un tout petit exemple, parce que ce qui est bien dans ce livre, c'est qu'il propose aussi des expériences et des exercices. Alors, une expérience très simple. Souvent, les dirigeants ou ces décideurs peuvent avoir des problèmes avec l'objection et l'acceptation de l'objection. Parce que finalement, quand quelqu'un vient contrer leurs idées ou apporter des idées nouvelles, il peut souvent y avoir une certaine résistance. Parce que finalement, si on accepte les gens qui s'opposent à nous, notre chaos intérieur pourrait se mettre en place et tout pourrait tourner au désastre. Donc souvent, ces décideurs sont dans une forme de résistance par rapport à l'autre. Alors voilà ce qu'ils nous proposent. Par exemple, quand vous êtes dans cette situation, identifiez une pensée qui est une source de tension ou d'inquiétude. Par exemple, la pensée que votre prochain conseil d'administration sera rude. Il faudra lire le livre pour connaître la suite. Voilà, ces décideurs qui méditent et s'engagent, un pont entre sagesse et business, préface de Mathieu Ricard, et c'est aux éditions Dunod.
Merci Marie, et je rappelle également vos deux ouvrages, Psychologie et symbolisme religieux de Janine Solotareff, consacrée donc à la traduction du symbolisme des évangiles, et puis pour vous-même, Le symbolisme dans la mythologie celte, l'apport de la psychanalyse introspective, donc Hervé Touholat. Ces deux livres ont été publiés aux éditions Hellebore. Je vous remercie beaucoup d'être venu nous parler de Paul Diehl. Et puis, je vous souhaite à la fois un bon dimanche et un très bel été.
Merci. Merci.
C'était Les Racines du Ciel. Une émission de Frédéric Lenoir et Lélian Var. C'était donc la dernière émission de l'année. Vous retrouverez, comme Marie Dalquier vous l'a indiqué, des rediffusions le dimanche matin, à la même heure, tout au long de l'été. Et nous vous retrouverons avec Lélian Var le 7 septembre pour une nouvelle saison des Racines du Ciel. Je rappelle que cette émission est podcastable pendant un an et réécoutable pendant 1000 jours. Très bon dimanche à tous et excellent été.